de l'an dernier avec Pierre Drogy en températeur. Et nous allons poursuivre ce tour des langues de France avec lui et avec ses invités. Je vais lui laisser la parole.
Bien, ben on va commencer. Donc, là, c'est effectivement la suite, d'une certaine façon, de ce qui avait été déjà proposé il y a 2 ans, avec d'autres langues. Le débat sera un petit peu plus court qu'en 2019, puisque nous avions une durée 1h30, et là, le débat est prévu pour une durée 1 heure, à peu près. Alors, les personnes qui sont sur la scène sont en même temps des représentants d'eux-mêmes, en tant que soit éditeurs, soit auteurs dans les langues qui sont concernées, et en même temps, d'une certaine façon, un peu les représentants de cette langue, dans la collection, en quelque sorte, de langues que propose le marché depuis 2019. Je vais commencer donc par une présentation nominale, et puis je vais demander ensuite à chacun peut-être de dire son rapport à la langue qu'il représente et qu'il présente ici. Alors, il y a Stefano Cesari, qui représente
Bonjour.
Le Corse. François Ranou, qui a une double casquette breton et gallo. Colette
oui,
Planas, qui représentera le catalan.
Bonne tarde.
Et Gérard Pfister, qui est éditeur et qui représentera l'alsacien, sans toutefois lire de texte en alsacien aujourd'hui. Alors, je me suis demandé pourquoi j'étais températeur, mot bizarre d'ailleurs. Et je ferai état cette fois-ci de ma position aussi intéressée aux langues excentrées ou périphériques, puisque je suis mosellan et que donc je ne parle pas le francique mosellan, mais je le comprends. Et je vois un peu comment réagissent les locuteurs de deux langues au contact d'une frontière avec un pays qui est l'Allemagne, comment en Lorraine, enfin en Moselle, on appelle les Français qui ne parlent pas le dialecte, ou dialecte est d'ailleurs un mot mal choisi peut-être, le francique des Français de l'intérieur. Voilà, toutes ces questions un peu de rapport entre langue, sociologie, politique, on pourra peut-être les aborder dans un deuxième temps aussi, parce que ça fait partie du sujet. Il y a peut-être d'ailleurs 2 sujets, un sujet qui concerne la langue, la sauvegarde de la langue, et puis un autre qui concerne, nous sommes dans un marché de la poésie, la création, le rapport de la langue à la poésie, et ce que peut signifier, ce que signifie créer dans une langue minoritaire. Donc on en parlera peut-être aussi. Si nous restons vivants sous ce podium. Voilà. Alors, peut-être chacun d'entre vous veut-il dire, se présenter dans son rapport à la langue. On va faire un tour. Non, on va commencer dans un sens. Expliquer aussi peut-être quelle est la situation de la langue en ce moment. Comment ça se présente sur le terrain. S'il y a beaucoup de locuteurs, s'il y a des maisons d'édition. Voilà. Donc, je donne la parole à Stefano Cesari.
Alors je vais parler pour moi et puis pour les poètes de langue corse aussi, parce que je pense que cette question du rapport à la langue, on le partage tous un petit peu de la même façon. C'est un rapport de langue à la fois de territoire, de lieu, de mémoire. C'est une langue qui est toujours vive. Qui est parlé, qui est utilisé, à la fois une langue littéraire et une langue populaire, et donc qui est vraiment habité au quotidien. Alors qu'est-ce que ça représente d'un point de vue littéraire, cette vitalité de la langue? Alors par rapport à l'occitan, par exemple, la langue corse a une une faible antériorité, c'est-à-dire que sa pratique écrite, elle est très récente. Et du coup, pour les gens qui l'utilisent comme un matériau, c'est une langue jeune. Et j'insiste là-dessus parce que cette jeunesse, cette idée de jeunesse de la langue, je pense qu'elle est, elle est importante parce que c'est un territoire qui est neuf. Alors les poètes, souvent, sont de grands lecteurs, lisent d'autres poètes. Et en langue corse, il y a ce rapport à la frontière, à la littérature d'expression française, mais aussi à l'italianité qui est beaucoup plus diffuse. Et ça nourrit une sorte de territoire de la langue qui est assez multiple, complexe. Il y a des questions de Méditerranée qui la traversent et des questions de lieux aussi qui sont très, très, très concrètes. Voilà, il y a un vrai rapport au territoire à travers la langue.
Bien, moi, je vais parler pour la Bretagne. Mais donc, je ne suis pas écrivain bretonnant. Mais je vis dans une région qui est effectivement traversée par deux langues. Le breton, à l'ouest, qui est une langue celtique, et à l'est de la Bretagne, cette langue qu'on appelle le gallo, qui est un parler roman. Et rien à voir du tout entre les deux langues. Donc, hein. Moi, je suis né à l'ouest, et j'y reste de temps en temps. Mais mon nom lui-même signifie quelque chose en breton. Et autour de moi, quand j'étais petit, tous les noms signifiaient quelque chose. Cette langue, moi, je l'entendais parler. Et quand je l'ai apprise, je suis allé à Rennes pour l'apprendre. Mais en fait, j'ai appris une langue qui était un peu différente. Quand je revenais en Bretagne, les locuteurs natifs me disaient « Mais qu'est-ce que tu parles comme langue ? En fait, c'est du breton officiel, ça, c'est du breton de la radio. » Et donc, il y a toujours eu une espèce de conflit, hein, en quelque sorte, entre les gens qui étaient des locuteurs natifs et qui parlaient des bretons très spécifiques, avec des différences entre régions par moment, entre pays, on appelle ça des pays, et puis le breton, disons, officiel. Ce breton qu'on voulait utiliser pour donner à la langue une littérature et en fait lui donner ses lettres de noblesse, quoi. Et donc, il y a cette tension, elle existe encore. Et c'est une tension qui existe et qui se manifeste, par exemple, à travers les écoles d'Iwan, la nécessité que ces écoles continuent à vivre, à travers aussi la lutte pour que tout soit traduit en breton et en gallo, ce qui donne parfois des choses assez étonnantes, puisque tout le monde comprend le français, en fait. Donc la région, par exemple, fait un document officiel. Bah oui, mais il faut que le document officiel, sur la première page, soit écrit en français, en breton et en gallo. Même si, chez nous, par exemple, à l'est de la Bretagne, personne n'a jamais parlé breton. Mais, et que le gallo est considéré comme une langue... Enfin, moi, je vis, j'enseigne près de Combourg. C'est une langue, les gens l'appellent le patois. Hein? Donc, ah non, faut que je vois. Et ça n'est pas considéré comme une langue noble à cause de cela, à cause de l'accent, à cause de la référence très proche au français, alors que le breton, étant une langue éloignée, devient une langue noble, une langue différente. Et donc c'est par sa différence, en fait, qu'elle appelle aussi l'idée d'une reconnaissance. C'est-à-dire que, du coup, en Bretagne, tout le monde devrait parler breton. Mais non. Ce qui est assez drôle, d'ailleurs, c'est que il y a un universitaire, enfin un étudiant japonais, il y a des années, qui s'était entiché du breton, et qui n'avait jamais voyagé. Il a quitté son Japon, il est arrivé à Rennes, et il s'adressait à tout le monde dans le bus en breton, pensant que tout le monde le comprenait, ce qui n'était pas le cas. Donc moi, je vis avec ces tensions-là, surtout que j'écris en français.
C'est ce que j'allais préciser. Voilà.
Écrire en français, pour certains bretonnants, c'est écrire dans la langue de l'occupant. Donc c'est pas évident. Mais en même temps, le français que l'on écrit, je pense à des écrivains comme Yves Eliouette, par exemple, je pense à d'autres écrivains francophones, mais qui effectivement sont bretons, ils écrivent avec, malgré tout, la trace de la langue bretonne derrière, dans les tournures, dans la syntaxe, dans la manière même de travailler la langue. Donc, ces traces-là, elles existent et elles sont très prégnantes. Et je terminerai en disant que les rapports entre les écrivains bretonnants, les écrivains francophones et ce que l'on appelle la littérature de Bretagne suscitent toujours beaucoup de difficultés, de problèmes. Je pense à quelqu'un comme Koulis Kédès, qui est un très grand écrivain, très grand poète, qui n'écrit qu'en breton, qui refuse pratiquement de se faire traduire, ou très peu, et qui est complètement hors circuit, alors que c'est une œuvre tout à fait considérable. Et puis de l'autre côté, des gens, ou bien par exemple, je pense aussi à Yann Vartorel, qui est un jeune écrivain bretonnant, qui lui traduit du chinois en breton, parce qu'il a aussi vécu en Chine. Donc il y a quand même cette ouverture, et puis ces tensions. Donc c'est finalement assez vivant, c'est très vivant. C'est très Far West aussi parfois. Alors, c'est un peu les cow-boys, quoi. Mais c'est intéressant, c'est vivant.
Colette Planat.
Oui, alors je parlerai ici au nom de la Catalogne, c'est-à-dire le département des Pyrénées-Orientales, qu'on appelle chez nous la Catalogne Nord. Et je dirais que, étant invitée au nom des langues de France, je dirais d'abord que le catalan n'est pas que langue de France, puisqu'il est aussi langue en Espagne, en Italie, en Sardaigne avec l'alguer. Il est aussi langue d'État en Andorre. Donc ça nous fait une diversité, un frottement, puisqu'on parlera de frottement entre les langues. C'est-à-dire que, bien sûr, le catalan se frotte en direct à d'autres langues qui sont véhiculaires, à part en Catalogne, où on trouve quand même un catalan véhiculaire aussi, en Catalogne Sud. Mais chez nous, c'est quand même une langue restée vernaculaire, qui est en grande perdition. D'abord, par la force de la population, nous sommes 480 000 habitants. La moitié parle catalan, un quart le lise, se lance dans la lecture et péniblement. Quand elle est accompagnée d'une traduction française à ses côtés, c'est mieux. Et donc, c'est vrai que de l'autre côté, il y a 10 millions de Catalans, donc c'est différent. Mais la puissance culturelle, littéraire, à tous les niveaux, au niveau de l'informatique aussi, au niveau des médias, des multimédias, nous avons cette production venant de Barcelone et des pays catalans, y compris les pays valenciens, baléares, qui fait que on n'est jamais à court, on a toujours quelque chose à lire, on a toujours quelque chose à entendre, mais il faut faire l'effort. Il faut faire l'effort parce qu'on ne le trouve pas chez nous. Chez nous, je crois que peut-être, parce qu'on a cette puissance à nos côtés, on a peut-être fait moins d'efforts que les Bretons, les Basques, les Alsaciens, les Corses. Au niveau de l'éducation, les chiffres parlent. Bon, j'étais conseillère pédagogique de catalan, je développais le catalan dans les écoles, et c'est vrai que au niveau des chiffres, on était toujours en perte de vitesse par rapport aux autres. Et je me désespérais. Je me disais, comment font-ils ? Mais il n'y avait pas de pression sociale, en fait, chez nous. Il y en a très peu. Je ne sais pas. Quand quelqu'un a besoin de catalanité, il passe la frontière, il va de l'autre côté. C'est un peu ça, peut-être. Je ne sais pas. Voilà. Donc, le catalan, c'est quand même une langue qui est ancienne, qui a 12 siècles. Et nous avons trois siècles d'annexion à la France. Et en trois siècles d'annexion à la France et la République a fait son travail consciencieusement. Et c'est vrai qu'elle est sortie de l'école avec les lois Jules Ferry en 1880. Et elle n'est revenue qu'avec la loi Deschaune, je crois que c'était 1955 ou 56. Et en 95 seulement, on a pu réintroduire une forme de bilinguisme à parité horaire. Donc, il y a énormément de population qui a perdu la langue au niveau des anciens, et la relève n'est pas encore assurée au niveau des jeunes. En poésie, par exemple, nous venons de perdre entre 2011 et aujourd'hui, nous avons perdu 5 grands poètes, vraiment, Jordi Perserda, Jean Béquerolt, Pierre Verdaguer, Reina de la Roportette est décédée il y a 15 jours. Et ça, il y a un manque à gagner terrible, parce que la relève n'y est pas. Je pense qu'il va y avoir un creux, et quand peut-être les jeunes que nous avons formés, et qui sont aussi poètes, qui ont le cœur à la poésie, peut-être, nous, à ce moment-là, une relève. Voilà.
Gérard Pfister.
L'Alsace est dans une situation assez différente de cette situation qui vient d'être dépeinte, car d'abord, il y a un patrimoine considérable. Je ne parle pas moi-même l'alsacien, mais je suis l'éditeur du patrimoine alsacien qui est là, mais qui est resté longtemps indisponible. Ce patrimoine commence avec Gottfried de Strasbourg, le Tristan, au XIIe siècle, et pour parler de poètes récents, Claude Vigée l'a illustré, ou bien Nathan Katz, qui est mort en 1981. Donc il y a cette grande durée. Si l'on veut parler de la langue alsacienne à proprement parler, elle commence d'être écrite en 1816 par Arnold. Auparavant, cette langue n'était pas parlée. La langue, c'est aussi une différence avec d'autres situations. La langue écrite de l'alsacien, c'est l'allemand. C'est ainsi que l'allemand est une langue de France. Lorsqu'il m'est arrivé de publier des ouvrages du patrimoine alsacien écrits en langue allemande, j'ai expliqué au CNL, qui l'a volontiers compris, que l'allemand est une langue de France. L'alsacien s'écrit en allemand. L'édition alsacienne des noms d'Alsace s'écrit en allemand, s'écrivait en allemand. Donc c'est une situation un peu à part. D'autre part, autre élément important, je crois que l'alsacien est la langue aujourd'hui qui compte le plus de locuteurs. Il y a 400 000 locuteurs alsaciens en Alsace, sur à peu près 2 millions d'Alsaciens. Bon, ce n'est pas beaucoup, et en même temps, ça n'est pas mal. Pour autant, c'est une langue qui tend, la République faisant son travail, qui tend systématiquement à décroître, et elle est surtout parlée par des personnes âgées. Un élément aussi qui est spécifique, c'est l'élément politique. L'Alsace a été annexée plusieurs fois, annexée par le Kaiser après la guerre de 70. Pendant la guerre de 14, elle n'a pas eu le temps de l'être, mais elle était allemande. Enfin, elle a été désannexée, je veux dire, après la guerre de 14. Et puis Hitler l'a, de fait, réannexée pendant la Deuxième Guerre. Mon père est né allemand en 1913, parlait l'alsacien, qui était la forme populaire de l'allemand. La forme. Donc c'était... L'élément politique est évidemment important, et quand certains intellectuels dans l'entre-deux-guerres ont voulu défendre l'expression écrite en allemand et voir l'usage du dialecte, puisque, comme j'ai dit, depuis 1816, on pouvait également écrire en dialecte, ils ont tout de suite été taxés d'autonomisme. Et comme de fait, les Allemands travaillaient l'Alsace pour qu'elle redevienne allemande, de fait, il y avait le risque que ces mouvements linguistiques soient pilotés par l'espionnage allemand. Donc il y a toujours eu cette l'au-delà de la frontière qui a été là, non pas quelque chose d'amical, mais de très conflictuel sur ce point. Enfin, je dirais que l'alsacien n'existe pas. Il y a beaucoup, beaucoup d'alsaciens. Du nord au sud de l'Alsace, il y a des parlers très nombreux. Alors qu'ils s'écrivent plus ou moins pareil, on a essayé de normaliser l'orthographe de la langue alsacienne, mais comme tout ça est relativement récent, cette normalisation fonctionne plus ou moins bien. En tout cas, le vocabulaire, comme les accents, diffèrent énormément entre l'alsacien du nord, qui ressemble beaucoup à l'allemand, ou l'alémanique que pratique Nathan Katz, qui ressemble beaucoup au suisse allemand. Je dirais aussi que, comme dans d'autres régions, il y a des dialectes romans qui sont parlés dans certaines vallées. La vallée où je suis, à Orbais, comme le nom l'indique, Orbais, c'est un mot roman. Et donc, on parle des dialectes romans, dialectes vosgiens, en quelque sorte, dans beaucoup de vallées. Il y a aussi le judéo-alsacien. Il y a des variantes innombrables. Donc, la problématique est assez complexe. C'est foisonnant. Pour parler de la poésie, je dirais qu'il y a un très riche patrimoine au XXe siècle. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est plus par des comportements identitaires que peut-être l'alsacien est pratiqué dans la littérature. En tout cas, je ne sache pas qu'il y ait vraiment une création très riche dans cette langue. Il y a peu de maisons d'édition, il n'y a pas de maisons d'édition qui défendent cette poésie. Il y a une revue importante, la Revue Alsacienne de Littérature, qui publie des textes en alsacien, mais je dirais que tout ça est un peu une survivance et plutôt n'est pas très vivant. Je crois qu'il ne faut pas s'illusionner.
Je voudrais peut-être aborder le problème du rapport de l'allemand à ces sœurs dialectales. On dit toujours que ça se passe très bien. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Vous connaissez sans doute Hertha Müller, le prix Nobel en 2009, je crois. Hertha Müller, qui est donc née dans le Banat, qui parle l'allemand, qui naît dans un village allemand complètement enclavé. Elle ne parle roumain qu'à partir de ses 20 ans. Et qui ne va découvrir la valeur de sa propre langue qu'en découvrant l'autre langue, donc une langue romane pour le coup, mais qui, quand elle se rend ensuite à Berlin, lorsqu'elle réussit enfin à quitter la Roumanie Ceausescu après avoir failli être assassinée à plusieurs reprises, s'aperçoit que les gens de Berlin lui apprennent à parler l'allemand. C'est-à-dire on lui demande d'où elle est, on lui pardonne quand elle dit qu'elle vient de Roumanie, et surtout on lui apprend à prononcer Bretzel, par exemple. Je viens de relire dans le très beau livre de Hertha Müller, qui est traduit partiellement par Claire de Oliveira dans la collection L'Imaginaire Gallimard. Il y a donc une espèce de leçon d'allemand normé qui est très étonnant parce que, du coup, la langue de Hertha Müller va correspondre à trois couches de langue. Il y a l'allemand normé qu'on veut lui apprendre, qui est en fait l'allemand de Berlin, parce que ce n'est pas non plus l'allemand de toute l'Allemagne. Il y a le même mot qui est dit autrement dans sa langue à elle, qui est une langue autrichienne, en fait, puisque le Banat était autrichien. Et il y a en plus la langue du village, le patois. Donc on se trouve finalement en Allemagne, possiblement aussi avec une situation tout aussi complexe finalement de hiérarchie. Et le problème de la hiérarchie, je crois, il est important. Et peut-être que de l'intérieur d'une langue, on peut essayer de perturber ces hiérarchies justement, de les faire jouer les unes contre les autres. Hertha Müller, c'est, je crois, ce qu'elle fait. Et c'est à partir du frottement, on parlait du frottement des langues, c'est à partir de ce frottement entre différentes langues que finalement s'obtient une sorte de liberté dans sa propre langue, ou qu'on conquiert sa propre langue. Voilà, c'était une petite parenthèse. Et je voulais aussi signaler, mais je ne sais pas si vous l'avez vu, donc le basque était une des langues invitées en 2019, et il y a un film qui a été fait par Eugène Green, qui s'appelle Atarabi et Mikel Hatch, qui est un film fait par quelqu'un qui ne parle pas le basque, qui aime le pays basque, et qui a fait un film, en fait, à la gloire de la langue basque. Il a filmé un mythe basque, dont le personnage principal est la langue, puisque ce sont des acteurs non professionnels qui disent leur texte, un peu à la Bresson, et ce qu'on entend surtout, c'est la langue. Enfin voilà, donc c'est ce qui manque peut-être à certaines des langues de France en poésie, ça serait un Eugène Green qui viendrait donner à la langue tout simplement le fait de pouvoir être entendu. Et c'est un film qui est sous-titré français. L'anglais y est noté de manière phonétique. C'est un film très drôle et très satirique. Vous savez que Jane Green déteste ces États-Unis où il est né. Et c'est un film qui met en valeur, en fait, une langue à travers un mythe et sa culture. Voilà, on va peut-être passer donc à l'aspect lecture. Je ne sais pas si vous voulez lire chacun de manière à la fois vous présenter dans ce que vous faites en langue. Et puis ensuite, on reprendra peut-être le débat sur l'aspect rapport entre le singulier et puis l'universel, le problème de transformer une langue en quelque chose qui s'adresse à tous. Oui, alors on va, si vous voulez bien, chacun d'entre vous, lire un texte, alors éventuellement d'abord en corse et puis sa traduction, si vous l'avez.
Pidani la cedi con capio, fatto di pilo cavallino, e vanini circonda cantallotti d'acqua, e tondo, tutto era scuro che o mondo parlai a una lingua bolamo. A mani e pa acqualia, pa u petto di adonna, qua ulinta di stringia, u cori come simplice u donno, empieni a cupola d'un cantono,
Cusango e o poco, e poco l'abbandono. Per mandia fa l'amore, senza sapere niente, d'un'apocalisse andata né d'un tempo a vena. Ponini a culteda, a cantas più matura. Anitinuta paro a loda e a stimera, e sininvenini d'un aviar, ancu d'una preghiera, a minima tadatura. Ciò che l'avia allontanati, a vali, la dunisci. Ils prennent des oiseaux avec un fil, un nœud coulant, la queue d'un cheval. Ils ne vont pas loin, à la source, à l'eau toujours ils vont, l'œil ouvert, et tout alors était sombre, tout parlait la langue du ciel sans pourquoi ni comment. La main c'était pour la caille, pour le sein. Ils voulaient bien sentir le sang chaud battant que l'on prend comme ça. Ils remplissent le creux de la pierre avec, ils s'abandonnent ainsi sans rien savoir, des apocalypses passées ni de l'avenir. Ils posent leurs couteaux à côté des plumes en tas. Ils se souviennent de tout ce qu'ils ont fait, de ce jour entier comme ils se souviennent d'une prière ou d'une flamme, ce qui les avait séparés, aujourd'hui les unit.
Merci.
Un extrait de Yone de Bouzouki, qui est une inspiration grecque, en fait. Poète local, mais aussi inspiré par un ailleurs. Donc, Aren Kalbol. Alabast tenzaki totes las maravellas. Feste aos seus encants a fora e adins. Adins, tot ho tenim colonitzat, sobretot el turment tot primer per fer fora. I després dilueix per retrobar les joies, amb el blau, amb l'ocre, amb llavis de volcà, amb l'ull de menta grega i el rum-rum del gat, ronca de content, el cosmos ben entrat dins del teu cos radiant, la salibera, el gat, el pas de ball, l'apoteosi, el pensament sobre les dones, els homes, l'aigua, la terra et ciseia, 10, 11, 12, 13, batecs a l'hora. Ves a pams, ves amb compte, entrega-te a l'aire per bellugar-te. Escala les altures del cosmos i la mar dels rompents. Encabrita-te amb salivera, cap i onades en foc, i la gazzara dels gabians, poa als teus records, arrenca el vol. Prends ton envol. Voici à ta portée toutes les merveilles, dedans, dehors, jusqu'au ravissement, dedans, tout est colonisé, surtout par le tourment à expulser. Puis dilue pour retrouver la joie, avec l'ocre, le bleu, les lèvres du volcan, avec l'œil menthe grecque et le ronron du chat. Ronron de plaisir, le cosmos bien entré dans ton corps radiant, le sel, la salive, le chat, le pas de danse, l'apothéose. La pensée sur les femmes, les hommes, l'eau, la terre te cisèle. 10, 11, 12, 13 battements à l'heure. Va doucement, sois prudent. Donne-toi à l'air pour bouger. Gravis les cimes du cosmos et la mer des rouleaux. Cabre-toi en salivant la tête et les vagues en feu. Dans le tumulte des goélands, puise tes souvenirs, prends ton envol.
Enfin, comme...
Donc, Nathan Katz, c'est le...
Non,
pas du tout. Nathan Katz, c'est certainement la figure la plus symbolique de la poésie alsacienne au XXe siècle. Il est mort en 1981. Il a écrit essentiellement en dialecte, mais il écrivait, il était représentant de commerce, et il a écrit lorsqu'il était en Afrique du Nord ou dans tous les endroits où l'amenait son métier. Et c'était des poèmes de la nostalgie de son pays, en fait. Il était juif, fils du boucher cachère de son village dans le Sungo, c'est-à-dire le sud de l'Alsace. Il était pétri de la poésie de Shakespeare, des tragiques grecs et de la poésie indienne. Voilà, c'était un poète universel. On pourrait comprendre l'éternité. Nous jetons la graine dans les champs, mais qu'elle pousse, cela dépasse nos forces. C'est cela qui, pour nous, est si incompréhensible, la puissante vie dans laquelle tout pénètre, tout meurt, dans laquelle un jour, pour de bon, nous retournons. Quand l'air passe sur nos tombes à travers les vertes haies vives. Et pourtant, c'est comme si parfois on pouvait comprendre l'éternité, la saisir avec son cœur, quand dehors, dans les jardins, on entend le bruissement secret. Ce poème a été traduit par Eugène Guilvic. Eugène Guilvic ne savait pas un mot de breton, bien que né à Carnac, mais il parlait très couramment l'alsacien, ayant été élevé en Alsace par son père gendarme affecté à Ferrette. Ce sont les bizarreries des échanges entre régions françaises. Un poème traduit par Jean-Paul de Dadelsen, dont le nom évoque bien d'autres régions, mais qui est un des plus grands écrivains de l'Alsace du XXe siècle, qui n'a pas écrit en dialecte. Nous revivrons peut-être, et quand nous serons morts, nous revivrons peut-être dans tout ce qui est beau. Nous serons peut-être la vie qui monte dans le jeune blé, dans cette multitude de petites pousses qui germent au loin par les champs. Nous serons peut-être la force du vent qui va par les bois en courbant les chênes et les simples et saines fleurs de quelques jardins paysans. Nous revivrons peut-être dans tout ce qui est beau, dans tout ce qui vit. Voilà.
Je vais vous lire l'extrait, la dernière partie d'un poème. Alors, je m'appelle François Ranoux et je vais vous lire un extrait d'un des plus anciens poèmes en langue bretonne qui existe, qui s'appelle Ar Ranoux. Voilà. Donc, je l'ai entendu chanter. C'est un chant populaire qui a été chanté pendant presque deux siècles, que la ville marquée en 1845 a transcrit, qui ouvre le Barzaz Breiz. Et c'est un chant assez mystérieux, mais surtout un chant, vous allez l'entendre, qui est un chant à répéter et un chant qui exerce la mémoire. Donc, Arrons-nous en français, c'est les éléments. Je le lis d'abord en breton. Donc, c'est l'histoire d'un enfant, Arbugel, et le druide, Andruis. Alors, l'enfant demande... Est-ce que tu peux me raconter la onzième section? Daosegmis, daosegarouez, andiwezan divez, seizereling flimezez, daosegarouez en emsrail, arvuorgen, arvuorzubail, otoneus quat ispeil, flemarseiz en echeren, eguadore de corpen, ovlejali son efen, corno son boud tan ataran, Glaue gavel, taron atan, traken muiken, traan arran, unek belekt warnezet, otoneneuz a ouenet, gant orlezeier toret, agorchedou gwadek, pren kolvez da vaz lawek, eus adri rant o unek, deg lestrud gen a welet, otonez eona onet, goa, ruitud gwenet, Nao dornik gwen var daoleur, e kichen tour les armeur, en naomam o keina meur, e korol nar horigan, bleuvek o bleu, gwisket gloan, kel ar feunten da louar gand, gwiz agen ao forelal, e tolik dor an roussal, o sororal, o turial, o sororal, tor, da vezenal, an or koz do tioreal. Et maintenant, je vais vous le lire en français, que j'ai retraduit en essayant de garder ce rythme. Donc, chante-moi le nombre 11, les éléments qui le composent, jusqu'à ce que je les connaisse aujourd'hui. Ce sont 11 prêtres harnachés qui tous s'en arrivent de vannes. Ils ont leurs épées brisées et leurs chemises ensanglantées et des béquilles de coudriers. Plus de 300 qu'ils portent à 11. 10 vaisseaux ennemis on a vu, qui tous arrivent de Nantes. Gare, gare à vous, hommes de Vannes. 9 petites mains blanches sur l'autel de pierre, près à la tour, les armeurs. Et 9 mères se lamentent et pleurent. 9 korrigans mènent la danse, tête fleurie vêtue de laine, sous la lune, autour de la fontaine. La laie et ses 9 marcassins sont à la porte de leur bauge. Ils grognent, ils creusent, ils creusent, ils grognent. Ils creusent, ils grognent, ils grognent, ils creusent. Petit, petit, tous au pommier, le vieux sanglier vous enseigne. 8 vents sifflent et soufflent, 8 feux brûlent, avec le feu sacré qui brille en mai sur le mont de la guerre. 8 génisses blanches comme l'écume sont à paître dans l'île profonde, les 8 bêtes blanches de la dame. Il y a 7 soleils et 7 lunes, 7 planètes et 7 éléments avec la farine de l'air. Sont 6 petits enfants de cire sous l'emprise de la lune. Si tu l'ignores, moi je le sais. Et 6 plantes dans le chaudron, le nain mélange la potion, son petit doigt est dans la bouche. 5 parties de la sphère terrestre, 5 âges rythment le cours du temps, 5 rochers couvrent notre sœur, 4 pierres à aiguiser de Merlin, elles rendent les épées plus tranchantes, il y a 3 parties dans le monde, 3 commencements et 3 fins, pour l'être humain comme pour le chêne, il y a 3 royaumes de Merlin, plein de fruits d'or, de fleurs brillantes, de petits enfants qui s'égayent, de beaux ateliers à l'essieu, ils vont expirer, regardez comme c'est merveilleux, seulement la nécessité, le trépas perd de la douleur, il n'y a rien avant, rien de plus, bel enfant du druide. Réponds-moi, que veux-tu que je t'enseigne? Que veux-tu donc que je t'apprenne? Chante-moi le nombre 12, les éléments qui le composent, jusqu'à ce que je les connaisse aujourd'hui. Il y a 12 mois, 12 signes. Et avant l'antépénultième, le Sagittaire qui tire sa flèche. Les 12 signes se font la guerre. La vache noire au front d'étoiles sort de la forêt des dépouilles. La pointe de la flèche dans le cou. Elle saigne comme un porc qu'on égorge, tout en beuglant, la tête levée. Le corps sonne, feu et tonnerre, pluie, vent et feu, tonnerre et feu. Plus rien de rien, plus d'éléments.
Merci. Vous avez...
Merci.
Vous avez d'une certaine façon ouvert déjà la deuxième partie du débat, tous, chacun votre façon, puisque vous avez lu soit des livres qui sont bilingues. Alors, j'aimerais savoir déjà si c'est vous qui vous traduisez vous-même, dans le cas de Colette Planas et de Stefano Cesari. Quel est votre rapport à la traduction ou à l'auto-traduction? Et puis, on a eu également cette histoire d'ouverture, de circulation des langues entre les langues, avec Nathan Katz évoquant l'Inde et l'Alsace dans le Maghreb, ou bien par cette circulation aussi du breton, on va en reparler, jusque dans le tchouvache de Haïgi, par exemple. On va peut-être reparler de ces circulations de petite langue en petite langue. Comment ressentez-vous, en tout cas, la nécessité de confronter la langue dans laquelle vous écrivez à d'autres langues? Et comment se choisissent ces langues, éventuellement? Alors, on va peut-être commencer par les deux premiers, c'est-à-dire Colette Planas et par Stéphane Cherzy. C'est-à-dire, est-ce vous qui vous auto-traduisez?
Oui. Alors, j'ai pris, c'est un engagement personnel qui n'est pas toujours apprécié d'ailleurs par les militants catalanistes, parce qu'ils pensent que l'édition en poésie catalane devrait se faire en catalan seulement. Et je suis assez un peu l'exception, en fait. Je traduis mes textes moi-même pour le moment. Peut-être qu'un jour... je ferai l'essai de faire traduire par quelqu'un d'autre, parce que ce n'est pas simple, mais en même temps, c'est un travail que je fais depuis des années, parce que parfois l'inspiration vient en français, parfois elle vient en catalan, et donc je m'adapte, je travaille autour. Ça peut prendre des jours, des semaines, des mois, tout dépend. Et en fait, je me suis rendu compte que je vendais beaucoup plus de livres que les autres, parce que forcément, les 25% qui pourraient se lancer dans la lecture en catalan, ils le font parce qu'ils ont le français en face, en vis-à-vis. Et c'est tout un exercice pour eux que de trouver une langue qu'ils connaissent à l'oral, à l'écrit, et en plus d'avoir l'assurance d'en avoir le sens. Et ils font des ponts entre les langues. Ah, je ne savais pas que ça s'écrivait comme ça, ce mot. Ils font tout un travail comme les enfants à l'école. Dès la maternelle, ils font ce qu'on appelle la contrastivité par le pareil, pas pareil. Ils disent tout le temps ça, les enfants bilingues. Ah, c'est pareil, c'est pas pareil. Et en fait, ils conceptualisent très, très vite grâce à deux langues. Et je me suis aperçue que les adultes, ils faisaient pareil. Quand ils avaient perdu leur langue à l'écrit, ils ne l'avaient jamais connue. Et ils font le même type de démarche expérimentale. Et donc, ça m'encourage à continuer. Et par contre, quand je traduis, c'est vrai que je laisse reposer parce qu'on est dans la structure de la langue qu'on vient d'écrire et on peut passer à ce qu'on appelle la catalana de très vite, disons, hein, ou alors le contraire. Et il faut quand même faire disparaître l'influence de la langue première. Et ce n'est pas facile, ça. Ça, c'est vraiment dur. Par là, parfois, il faudrait un regard extérieur, là, effectivement.
Stefano Cesari.
Moi, je voudrais.
Vous n'avez pas présenté non plus votre livre. Oui.
Mais je voudrais parler un petit peu de la lecture des éléments parce que c'est vraiment très très intéressant, très très belle lecture. Et en fait, je pense que ce qui est important pour nous qui parlons une langue autre que le français, c'est la question du plaisir de la langue parlée. À la fois un plaisir et un désir. Et parler une langue, c'est pas comme l'écrire. C'est-à-dire que ce qui vient en premier, effectivement, c'est le fait de parler cette langue. Et en la parlant, d'autres la parlent à travers nous. Et ça aussi, c'est important. Alors d'autres, on ne sait pas très bien qui, le père, la mère, une mémoire, l'autre proche, l'autre lointain. Il y a une multiplicité de paroles à l'intérieur de cette langue parlée. En Corse, par exemple, les gens qui parlent encore le corse ont ce plaisir et ce désir de savoir et accordent une grande importance à la parole, aux mots que quelqu'un peut vous apprendre, que vous ne sachiez pas ou que vous aviez oublié. Et il y a une tristesse, une vraie tristesse à ne plus savoir. Ne plus savoir comment on dit, par exemple, la Voie lactée, l'étoile du berger, ou je ne sais quelle pierre au bord du chemin. Et ça, c'est quelque chose à la fois de simple, de dérisoire, et de très très important en poésie. Ce désir de parler, de dire, parce que derrière, il y a le désir de transmettre aussi. C'est-à-dire que bon, le poète, il écrit pour lui-même dans la solitude de son atelier, mais il y a à sa suite une question de génération. C'est-à-dire qu'il faut que cette poésie soit habitable et soit transformable, soit réutilisable pour continuer, pour qu'il y ait une résurgence de l'écriture poétique.
C'est-à-dire qu'il faut que le rapport au réel soit justement quelque chose de natif, qui soit vivant. Et moi, je repense à un poète breton qui s'appelle Paul Keynec, que beaucoup de gens connaissent ou ont lu, qui écrit au départ en breton, mais qui écrit aussi en français. Il a son œuvre en français. Et je me souviens, venant par exemple chez moi, me disant à quel plaisir, parce qu'il était aux États-Unis pendant longtemps, quel plaisir de redécouvrir le plaisir tout simplement de nommer des fleurs dans la langue de mon enfance, tout simplement. Hein. Et ça, comme le dit Stéphanou, c'est très important.
Je parlais de Hertha Müller tout à l'heure. Elle parle de la censure qu'il y a. On lui propose des fleurs à Berlin qui s'appellent des gueules de loup, de lion, pardon. Et elle, dans la langue qui est la sienne, ça s'appelle des petites gueules de grenouille. Et en fait, au village, on les appelle des croissements, tout simplement, dans le patois. Et donc, ce mécanisme de censure, finalement, et de réadaptation des mots aux choses. Et donc, il y a une mise en cause du monde aussi qui se joue à partir de cette matérialité de la langue. Et je parlais aussi du film de Green, pas par hasard. Le basque, évidemment, je ne le comprends pas, je ne parle pas. Mais ce film donne une espèce de jubilation dans la matérialité même de son élocution, de sa prononciation. Et le français, qui est simplement le sous-titre, là, vient simplement donner un peu de sens pour celui qui ne parle pas le basque. Mais c'est l'acteur principal de ce film, c'est une langue. C'est quelque chose d'assez étonnant. Je vous conseille vraiment d'aller écouter et voir ce film.
Ce que tu dis est intéressant parce que la langue, en fait, quand elle est rapport au natif, s'éloigne de toute forme de récupération idéologique.
Absolument, il y a un sens politique.
Et souvent, alors en Bretagne, c'est le cas, puis dans d'autres langues, j'imagine aussi, mais le politique, c'est le politique plus que l'école encore qui a achevé de couper les gens de leur langue natale. Parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, Beaucoup de, il y a eu donc des gens qui appartenaient au mouvement breton, qui ont cru, et c'était une grande majorité, qui ont cru que la Bretagne dans une Europe arienne, ça fonctionnerait très bien. Donc ils ont aidé, ils ont pris un uniforme qui était proche quand même des habits allemands, et ils s'en sont servis pour arrêter des résistants. Donc moi je me souviens encore très bien du fait que parler breton était mal vu aussi à cause de ça. Et malgré tout, le breton existe par ailleurs autrement que vu à travers la grille purement idéologique, quoi.
Pour Hertha Müller, il y a la nécessité de dénazifier l'allemand, parce qu'elle naît en fait dans une famille nazie. Elle vit dans une famille du Banat, complètement fermée dans l'idée du Grand Reich. C'était les Allemands à qui on a fait croire effectivement au Grand Reich, qui se retrouve dans une Roumanie qui évidemment n'en veut pas. Et le moment de délivrance, c'est le moment de la découverte à l'université qu'il existe une autre langue et que... Alors le mot hirondelle est le mot par lequel elle découvre en fait que, voilà, Schwalbe et... je ne me souviens plus du mot roumain. Ce sont deux choses qui font voir l'être qu'on désigne de manière différente. Et c'est de là que naît la possibilité pour elle de s'ouvrir. Enfin, elle était très très mal partie, Hertha Müller, pour devenir Nobel, si j'ose dire. Elle partait très très loin et avec une langue elle-même, d'une certaine façon, minoritaire. Monsieur Pfister, vous avez quelque chose à dire sur ce rapport en fait entre l'universel, le singulier, le...
Je crois qu'effectivement, il est bon que des éditions bilingues existent, parce que les langues régionales ne meurent pas. Elles s'appauvrissent seulement. Quand on dit qu'il y a tant de locuteurs, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'en réalité, quelle est la richesse de leur langue ? Quand on voit pratiquer les langues sur les marchés, très rapidement, on s'aperçoit qu'il faut passer au français parce que le mot alsacien manque. Et donc, lorsque nous publions tous ces ouvrages en édition bilingue, l'élocuteur d'Alsacien, à travers ses poèmes, retrouve effectivement une richesse perdue de leur propre langue, par le truchement du français. Ils lisent le poème en alsacien, des mots leur manquent, et c'est par la traduction française qu'ils retrouvent ce vocabulaire alsacien perdu. Donc il y a cette... Il y a là quelque chose de très, très utile, de très positif. Donc, c'est pour ça que nous le pratiquons. Et puis aussi parce que le nombre d'élocuteurs fatalement baissera et que c'est le seul moyen que ces patrimoines continuent d'être appréciés et que l'on se rende compte que ces langues régionales ont une véritable richesse qu'elles méritent d'être soigné, d'être peut-être retrouvé, que certains qui ignorent totalement la langue aient envie, pour accéder directement à la langue, d'apprendre cette langue. Je crois que plutôt que de faire de la propagande, parler l'alsacien, c'est beau, enfin, il y a eu beaucoup de campagnes de ce genre menées par les pouvoirs publics, le mieux, c'est de donner à lire des textes de cette langue traduits et de donner le désir de l'apprendre en se rendant compte qu'il y a tout un patrimoine perdu auquel on est viscéralement attaché et qui a une vocation universelle.
Oui, alors c'est intéressant parce que je pense à Aigui. Et donc Aigui était venu dans le collège où j'enseigne à Combourg. Il avait traduit.
Il faut peut-être préciser, rappeler qui est Aigui.
Alors Gennady Aigui était un poète russe d'origine tchouvache. Et c'est quelqu'un qui a une œuvre assez considérable, qui a été beaucoup traduit en français, et qui est un poète très important, qui est décédé maintenant. Il était traducteur aussi dans son pays, il avait traduit notamment Chateaubriand. Et donc quand il est arrivé à Combourg, devant le château de Combourg, pour lui c'était « Oh, grand château, grands arbres !» Et il récitait en fait des phrases de Chateaubriand qu'il avait traduites. Et s'il s'intéressait aux Français... Ce n'est pas parce qu'il fallait apprendre le français, c'est parce que le français était une langue désirable par sa littérature. Et c'est ça qui compte. On a envie d'apprendre. Quand j'entends Stéphanou lire le Corse, par exemple, ça me donne envie de le lire. Je ne connais pas le Corse, mais grâce à la traduction, je pourrais effectivement m'en approcher par les sonorités, par la lecture qu'il en a faite. Et c'est pareil pour le catalan. J'étais à Barcelone il y a des années de ça et j'étais tombé sur un livre de Joan Brossa. Je ne connais pas le catalan, j'ai pris un dictionnaire et je me suis amusé à essayer de le traduire. Ensuite, j'ai trouvé une traduction simplement pour le plaisir de confronter ce que j'entendais dans la rue à ce que je voyais qui me semblait passionnant. Donc c'est ce désir-là qui est important.
J'ai un texte de Heidi que j'aimerais bien vous lire sur précisément ce qu'on peut faire avec une langue parlée par 100 000 habitants, 150 000 habitants. Le tchouvache, c'est une langue donc, du groupe des langues tatares. C'est un petit groupe de tatars qui n'a pas voulu passer à l'islam, qui est resté dans le chamanisme. La grand-mère d'Aïgi était une chamane qui emmenait son petit-fils dans la forêt. Et donc, il était lui aussi très mal parti, comme Herta Müller, partant d'un endroit inconnu, avec une langue inconnue, parlée par très très peu de monde. Et voilà ce qu'il dit. Je trouve ça intéressant. J'aimerais bien que vous réagissiez à ce que je vais... Je suis né dans un village tchouvache, entouré d'épaisses forêts immenses. Les fenêtres de notre petite isba donnaient directement sur les champs. Champs et forêts constituaient tout mon univers. Lorsque j'ai pris connaissance dans la littérature mondiale des mondes océans, des mondes villes des autres peuples, je me suis efforcé que mon monde forêt et champs ne le cède pas en signifiance littéraire aux autres mondes universellement connus, et même que, dans la mesure du possible, il acquiert une certaine valeur générale. Cela exigeait tout le travail de l'intellect et de mon imagination, longuement et péniblement formé par les autres cultures, et de même mon bagage culturel comparatif devait être aussi large que possible, aussi élaboré que possible, devenu mien, toujours prêt à s'enclencher, à fonctionner dans un état de création sans être limité par rien. Je voulais élever le petit jusqu'au plus grand. Bref, les champs et forêts dans mes vers sont simplement des visages de ma patrie qui sans aucun doute prenaient un caractère de plus en plus symbolique. Voilà, donc il y a cette idée de l'articulation de quelque chose qui est le plus singulier, et là, il y a à la fois une langue singulière et une réalité singulière qu'on tente de partager. Alors évidemment, pour Heidi, c'est en arrivant à Moscou qu'il s'aperçoit que ses poèmes en tchouvache ne sont compris de personne, et qu'il se met donc évidemment à la traduction. Et ce qui est effectivement le plus surprenant, c'est qu'il a traduit du breton en tchouvache, et qu'il y a une anthologie avec des textes de Heidi, des textes tchouvache, il a fait une anthologie de tchouvache, en breton. On se retrouve donc avec des petites langues singulières qui, d'une certaine façon, s'épaulent, se frottent les unes aux autres, et dans la recherche peut-être de la même chose, qui est un universel, en fait. Oui, je ne sais pas si ce...
S'il y a un domaine où le bilinguisme écrit a une vitalité, c'est la poésie. On peut faire le tour du marché, regarder, feuilleter des livres. Il y en a beaucoup qui sont écrits en deux langues, voire plus, soit en traduction, soit en double écriture par le même ou la même poète. C'est vraiment un domaine où les langues sont à l'œuvre, soutenues par le livre, par l'objet livre. C'est-à-dire qu'on donne à voir cette épaisseur de langue. Et c'est important parce que ça ouvre justement un rapport du lecteur à l'espace et au lieu où peut-être on n'arrive jamais. C'est la pensée que j'avais en découvrant le travail de Mancier, par exemple, en occitan. Alors j'arrive à lire un petit peu l'occitan. Et ce un petit peu, ça fait une grande différence par rapport à pas du tout. Et en fait, il se traduisait lui-même, c'est-à-dire qu'il y avait cette double écriture. Et ce petit peu me permettait de voir la différence qu'il y avait, la différence de réalité et d'espace entre le texte occitan et le texte français écrit par Mancier lui-même. Et j'avais bien conscience de l'espace autre, lointain, et ce pays où je n'arriverai jamais, qui est... à la gauche du livre. Et ça, c'est important, parce que je pense qu'il y a une idée de l'universel là-dedans, mais de l'universel contrarié, c'est-à-dire ce rapport à l'altérité visuelle, intérieure. Et je pense que là, il y a quelque chose, d'un point de vue de l'expérience du lecteur à éprouver, qui est important.
Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous vous traduisez vous-même ?
Alors... J'aime pas beaucoup le mot de traduction parce que ça enlève quelque chose au rôle du traducteur avec un grand T, et surtout à son honnêteté et à sa fidélité par rapport à un texte. Quand on écrit dans deux langues, cette fidélité, elle est plus questionnable, c'est-à-dire qu'on est plus fidèle à un mouvement, à un cheminement, et surtout on est attentif à ce qui va colorer une langue depuis une autre, mais peu importe depuis laquelle. Et en fait, c'est cette circulation d'énergie qui est importante dans une double écriture, plus que le fait de traduire.
Donc, quelqu'un d'autre veut réagir à cette façon dont on peut s'articuler? Oui,
j'acquiesce complètement. C'est vrai que c'est une création qui va d'une langue à l'autre. Et qui, oui, avec une énergie qui circule, une espèce de flux entre les deux langues. Et surtout quand elles sont proches, comme des langues romanes, vous parliez de l'occitan. C'est vrai que toutes ces langues romanes qui sont de la même famille, qui sont dans le frottement permanent, elles permettent quand même de... À partir du moment où nous en avons une ou deux, français, italien, français, espagnol ou français occitan, je pense qu'on peut accéder à toutes les autres. C'est une petite merveille à ce niveau-là. Donc, moi, je vous encourage à apprendre d'autres langues que le français. Et parmi la famille romane, il y en a beaucoup. Et c'est vrai que c'est extraordinaire de pouvoir après lire dans la langue d'origine, même si le français est à côté. Le fait d'être accompagné par ce français, c'est une ouverture à l'autre, au monde, à l'ailleurs, qu'on ne se permettrait pas si on était français monolingue ou seulement anglophone, puisque c'est la langue qu'on propose le plus dans la masse. Voilà.
Gérard Pfister, quelque chose, un nom à ajouter ?
Je voudrais juste dire que le déport par la langue étrangère amène... Par exemple, moi, quand j'écris, ça m'amène à considérer le français comme une langue étrangère. C'est-à-dire que j'ai un regard neuf sur la langue que j'utilise tous les jours. Et c'est, en fait, c'est le travail de poésie. C'est, enfin, pour moi, en tout cas.
J'ai oublié de préciser que l'autobiographie dont j'ai mentionné quelques extraits de Herta Müller est en fait un cours de poétique. Et que son cours de poétique est l'histoire, en fait, de sa naissance à la langue. C'est un livre vraiment fascinant. Il est dommage qu'il n'ait pas été traduit en entier. Hein. Donc le livre, le volume chez Gallimard présente des extraits, certains des articles, pas tous. Mais c'est en fait un séminaire. Et il est très curieux de voir que c'est tout simplement le récit de son expérience, de sa propre langue, son expérience aussi existentielle, et la façon dont la découverte d'autres langues, la découverte d'un allemand complexe et articulé hiérarchiquement, avec une censure, avec un refus, avec des images qui se superposent, qui en fait lui permet de s'ouvrir littéralement, en plus dans un contexte de dictature très très difficile. Voilà, bah écoutez, on est à l'heure qui était prévue initialement. Si vous avez, je ne sais pas si vous souhaitez encore ajouter quelque chose. Non, je vous remercie grandement pour
ce débat. Merci beaucoup.